Donc dans ce texte de la guérison du serviteur du centenier, Jésus nous dit qu'il a trouvé chez ce centenier un exemple unique de foi tel qu'il n'en a jamais vu d'aussi grand en Israël. La question, c'est de savoir quelle est la nature de cette foi. Traditionnellement, et à première lecture, ce que l'on a tendance à penser, c'est qu'il s'agit effectivement d'un miracle et que la foi du centenier, ça a été de croire que Jésus était capable de faire ce miracle. Parce qu'en effet, le centenier dit, voilà, moi je commande aux hommes, je dis à l'un, fais, il fait, va, il va, et je crois que toi, tu peux commander au pouvoir entier, céleste et sur toute chose. Et donc on pourrait croire que c'est de ça qu'il s'agit. Mais je pense que c'est une fausse piste, pour deux raisons. La première, c'est que, certainement que Jésus a guéri ce serviteur, mais qu'aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas là-dessus que nous communiquons à propos de l'Évangile. Je ne dis pas à Louis, par exemple, c'est formidable, si tu crois, tu n'auras plus besoin d'aller chez le docteur, tu n'auras qu'à prier Jésus chaque fois que tu seras malade, et puis tout ira bien, et tu pourras même ressusciter tous ceux qui meurent. Ce n'est pas ce que nous disons, et certains chrétiens pratiquent cela, les guérisons, tout ça, mais en tout cas, dans l'Église réformée, nous ne le faisons pas. Et des fois, les gens guérissent, mais en tout cas, nous n'attendons pas de Dieu qu'il intervienne d'une façon brutale dans le cours des choses, en général. Et donc, cette lecture me semble décalée par rapport à notre attente. Et l'autre chose qui me fait voir qu'à mon avis, c'est une fausse piste, c'est qu'il y a dans ce récit une grande quantité de détails. On nous raconte toute cette histoire très compliquée avec les Juifs, le centenier qui a construit la synagogue, les serviteurs qui viennent, le centenier qui ne se déplace pas, etc. Et tous ces détails, à quoi servent-ils? Si jamais le seul sens du miracle, c'est de croire que Jésus est capable de faire des miracles, on n'a pas besoin de tous ces détails. Et je ne crois pas que l'Évangile s'encombre de détails pour faire couleur locale, si vous voulez, ou pour poser la scène. Je pense qu'ils ont un sens, une signification, et que donc il faut chercher plus loin. Ce qui m'apparaît, moi, dans ce texte, c'est qu'il y a un vrai miracle. Mais que le miracle, ce n'est peut-être pas la guérison, parce qu'il y a des tas de gens qui guérissent tout le temps, donc bon... Je dirais, si chaque guérison était un miracle, il faudrait beaucoup plus que la Bible pour parler de ça. Et donc, il y a une guérison, mais le miracle pour moi, c'est que pour que cette guérison advienne, il a fallu une succession de choses improbables, une succession de choses qui n'auraient eu aucune raison de se passer, en quelque sorte. Parce que d'abord, on peut penser effectivement que ce serviteur a eu bien de la chance. Parce que le voilà malade, mourant même, incapable de se soigner, sans moyens, il n'avait aucune chance, pourrions-nous dire. Or, finalement, il va être sauvé. Et je crois que le miracle, c'est ça pour moi, c'est quelque chose d'improbable qui finalement se produit. Pas d'impossible, mais d'improbable. Et ça, ça arrive souvent. Et donc, si on regarde le cours des choses, on peut voir les choses du côté du centurion. Le centurion... C'était très improbable qu'il se préoccupe de son serviteur. Un centurion, il a 100 soldats. Il a des esclaves comme il veut. Et qu'un esclave vive ou meure, il s'en fiche, on lui en fournit un autre. Et donc le centurion n'avait rien à faire de ce serviteur. Il aurait très bien pu s'en désintéresser. Et donc c'est un miracle, je dirais, qu'il se soit préoccupé de son esclave, alors que rien ne poussait à le faire. Alors il s'adresse aux serviteurs de la synagogue, aux responsables de la synagogue. Mais eux, c'est pareil, pourquoi ils auraient fait quelque chose? Les Romains, c'était des envahisseurs, c'était les occupants, comme nous pendant la guerre en 40, les Allemands. Et donc les Juifs de la synagogue n'avaient aucune raison d'aller aider un responsable romain, qui était un idolâtre, qui ne croyait pas dans leur Dieu, qui était évidemment pas juif, et c'était pas évident. Et ensuite, il n'y avait encore moins de raison pour que les responsables de la synagogue aillent appeler Jésus, qu'ils n'aimaient pas non plus. Cette espèce d'électron libre franc-tireur qui les contrariait sans arrêt, et voilà qu'ils vont s'adresser à lui. Chose la plus improbable qui soit. Et quant à Jésus, il se trouve là dans une situation extrêmement délicate. Va-t-il soigner le serviteur d'un étranger, alors que dans d'autres passages, il s'est montré beaucoup plus exigeant, hein, en disant « Non, non, moi je ne suis pas là pour faire des miracles pour tout le monde, moi je suis là pour parler de la foi et mes signes doivent être interprétés dans le contexte théologique de la foi d'Israël. » Et donc Jésus aurait pu refuser. Il a une mission particulière qui n'est pas de distribuer des guérisons et des miracles, et donc il aurait pu ne pas le faire. Mais voilà que le miracle va être que finalement, malgré la limite de ce que chacun peut faire, finalement, il va se passer quelque chose. Et ce quelque chose, ça va être la guérison d'un homme. Et donc là, ça m'apprend déjà, pour moi, une chose importante. C'est que ce qui va guérir le serviteur, c'est finalement non pas la puissance seule de Jésus, ce n'est pas la puissance du centurion ni d'aucun des personnages de l'histoire, mais c'est la synergie. C'est-à-dire que tous ensemble, ils vont converger vers un but qui est là, la guérison du serviteur. Et tous ensemble, ils vont s'y mettre et chacun a un rôle, chacun a une responsabilité là-dedans. Et c'est ça qui m'intéresse parce que en Jean 14, Jésus dit à ses disciples « Vous ferez vous-même des choses encore plus grandes que moi. » Alors là, je me dis, soit on est tous nuls, soit Jésus s'est trompé parce que nous, on ne ressuscite pas les morts et on ne fait pas d'aussi grandes choses que Jésus. Et donc, quelle est cette annonce? Eh bien, cette annonce, je crois qu'elle est que individuellement, aucun de nous n'est capable de faire de très grandes choses, mais que collectivement, on est capable de choses extraordinaires. Collectivement, si nous pouvons être un corps agissant, et si ensemble nous unissons nos efforts, et si chacun accepte de laisser de côté ses préjugés, comme l'ont fait tous les personnages de cette scène, eh bien, et si ensemble nous mettons dans un but commun, alors nous pouvons faire des choses extraordinaires. Et peut-être qu'effectivement, la chose la plus extraordinaire, qui est commune d'ailleurs à tous ces personnages, c'est qu'à tous les niveaux, il se trouve quelque chose qui est de l'ordre de la générosité et de la gratuité. Parce que je vous l'ai un petit peu dit au début, mais rien n'était évident. Au contraire, c'est totalement librement, gratuitement, que le centurion décide d'aider son esclave. Il n'avait rien à y gagner, rien ne l'y obligeait. C'est une sorte de geste, déjà le geste de départ qui va sauver le bonhomme. C'est un geste de grâce du centurion. Et il va le faire. Et de même, pourquoi ce centurion était aimé des Juifs? C'est parce qu'il leur avait offert une synagogue. Pourquoi avait-il offert une synagogue? Ce centurion n'avait rien à attendre des Juifs non plus. Et il a gratuitement, généreusement payé la synagogue pour les Juifs, sans rien attendre. Ça aussi, c'était un geste de grâce. Et finalement, les Juifs eux-mêmes sont reconnaissants, certes, mais encore, ils auraient pu... ils n'étaient pas obligés de montrer de la reconnaissance vis-à-vis du centenier. Ils avaient déjà leur synagogue, ils n'avaient rien à gagner de plus. Et donc, les Juifs aussi, ça va être gratuitement, généreusement, qu'ils vont dire, ben tiens, nous, on va se donner du mal pour ce centenier. Et puis Jésus non plus n'avait rien à attendre de ce centurion, rien à gagner non plus, et il va agir totalement librement, donner de son temps, gratuitement, même si ça doit perturber un peu sa mission personnelle. Et du coup, je me dis que certainement l'important c'est donc cette synergie, mais que cette synergie, elle doit être construite sur un cœur commun, je dirais. Et ce cœur commun, moi, je crois, en lisant bien l'histoire et en la relisant, je crois que c'est la gratuité. La gratuité, la liberté. Dans nos églises, on appelle ça la grâce. Mais bon, aujourd'hui, plus personne ne sait ce que ça veut dire. La grâce, c'est du patois théologique. Mais disons la gratuité. Cette attitude qui va au-delà des simples règles de droit, qui va au-delà même des devoirs, parce qu'aucun n'avait aucun devoir là-dedans. et ce qui va au-delà de l'intérêt personnel, au-delà de la simple logique pour choisir de donner et de rendre service. Et on voit dans cette histoire ce qui peut donner envie de choisir ainsi et de faire grâce, c'est l'estime de l'autre, c'est la reconnaissance, c'est l'affection, c'est la générosité, enfin, j'en sais rien, peu importe. Mais finalement, tous ces protagonistes dans l'histoire agissent totalement librement, avec un geste de vraie liberté, je dirais, sans contrainte, uniquement par grâce, orientée vers le bien de l'autre. Alors ça, c'est important pour nous, parce que pour nous chrétiens, nous disons que la grâce, c'est le propre de Dieu. C'est-à-dire que c'est la chose qui lui appartient. Certainement que Dieu nous donne tout par grâce, parce que nous ne méritons rien et tout ce que nous avons, nous l'avons par grâce. D'accord. Mais quand on dit que la grâce est le propre de Dieu, moi je l'entends autrement. Je l'entends pour dire que si Dieu c'est le cœur même de ce qu'il y a de plus essentiel et fondamental dans ma vie, si Dieu c'est la source même de la vie, ce qui est source de vie en général, ce qui est source de ma vie, c'est la grâce. C'est-à-dire que la gratuité, le don, c'est ce qu'il y a de plus essentiel et de plus fondamental, je dirais, pour créer le monde et pour créer la vie et pour donner envie de vivre, pourrais-je dire. Parce que l'évangile de Jean nous dit au chapitre 1, justement, qu'au début on était dans la loi, c'est-à-dire dans la morale, dans l'exigence. Et c'est vrai que souvent la religion tombe dans la loi et dans l'exigence. Et dans la religion, il y a des règles. Il faut faire ci, ne pas faire ça. Et où il est bienséant de faire ceci et malséant de faire cela. Et dans la religion, il y a des choses à faire et d'autres à ne pas faire. Et Jean nous dit, voilà, ça, des règles et des lois, il y en a toujours eu dans la religion. Mais la grande originalité du Christ, et je crois que ça, c'est vraiment, je pense que c'est une originalité presque unique dans toutes les religions du monde, hein. En tout cas de le mettre à ce point-là en valeur. Jean nous dit que Jésus nous a introduit dans la grâce, c'est-à-dire justement dans la gratuité, dans la liberté. Et que Dieu lui-même est grâce, parce qu'on n'est plus dans une logique de religion où l'on a ce que l'on mérite, où on est jugé en fonction de ses œuvres, où Dieu aime ceux qui font du bien, etc. Mais on est dans une logique de la grâce. Et nous prêchons un Dieu qui nous aime, qui nous accueille, qui nous pardonne, qui que nous soyons, simplement c'est le Dieu de la grâce et qui donne la vie parce qu'il nous aime. Et donc oui, cette grâce, c'est la chose la plus essentielle. Parce que sans cesse dans ce monde, sans avoir besoin des religions pour en rajouter encore, sans cesse nous sommes dans un monde de devoirs et de droits. Alors vous savez, les gens se disputent, depuis la Révolution française, on dit que le fondement de la société française, ce sont les droits de l'homme. Alors on dit voilà, les droits de l'homme, moi j'ai des droits monsieur, et je revendique. Et puis alors les gens qui sont plus de droite disent non, c'est pas les droits de l'homme, c'est les devoirs de l'homme. L'homme a des devoirs et nous ne pouvons pas séparer les droits des devoirs. Alors longtemps, j'ai balancé entre la gauche et la droite. Est-ce que l'essentiel ce sont les droits de l'homme ou est-ce que l'essentiel ce sont les devoirs de l'homme? Et finalement, j'ai compris. J'ai compris que ce n'est ni les droits ni les devoirs qui donnent la vie. Ce qui donne la vie, ce ne sont pas les droits, ce ne sont pas les devoirs, c'est la grâce. C'est-à-dire, c'est le don, c'est ce qui est gratuit. Parce que ce qui est gratuit, c'est ça qui donne du sens à la vie. Et effectivement, les droits et les devoirs, on peut les comptabiliser, on peut culpabiliser, on peut condamner, on peut rajouter encore des droits et encore des devoirs. Mais la grâce, personne n'en parle. Aucune loi ne parle de la grâce et du don. Personne n'est obligé de dire merci, personne n'est obligé d'aller voir quelqu'un qui se sent seul, personne n'est obligé d'accompagner quelqu'un ou de l'écouter, personne n'est obligé de faire un cadeau, aucun droit, aucun devoir, mais simplement la grâce. Et quand je regarde ma vie, je dois dire que la seule chose qui me donne envie de vivre, c'est la grâce, c'est l'amitié, c'est le don, c'est le partage, c'est la générosité. ce sont ceux qui viennent me voir, non pas en me disant « Tenez, monsieur le pasteur, je vous donne 20 euros, vous ferez un service pour ma grand-mère. » Ce n'est pas ceux qui me payent pour faire ceci ou pour faire cela, mais c'est les gens qui simplement me donnent, viennent vers moi et me disent « Voilà, je vous aime » ou « Je vous donne ceci » ou « Vous êtes quelqu'un, voilà, j'en sais rien. » Mais en tout cas, c'est ça qui, pour moi, donne du sens à ma vie. Et ça, c'est rare. C'est difficile à trouver parce que notre monde est de plus en plus cadré, calculé, tout s'achète, tout se paye, si ce n'est maintenant, en tout cas un jour. Et si la religion doit nous en rajouter encore une couche en disant « Profitez-en, mes lapins, parce que vous le payerez un jour !» Alors moi, j'en ai assez de tout ça. Moi, j'ai besoin de grâce, j'ai besoin de pardon, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de paix, j'ai besoin de générosité et de tendresse. Et je crois que c'est ça qu'il faut prêcher. Et je pense que c'est ça qu'a compris justement le centenier. Et je pense que par-delà ce que j'ai toujours lu dans cette histoire d'un centenier qui croit que Jésus est capable de faire un miracle, quand Jésus, il fréquente un peu ces gens, et il voit le centenier, il lui dit « Écoute, moi j'ai trouvé en toi une foi extraordinaire, qui est plus grande que celle que j'ai vue où que ce soit en Israël. Eh bien cette foi, c'est quoi ? Moi, je crois que cette foi, c'est justement que le centenier, eh bien, concrètement, dans sa vie, il avait vécu de la grâce, parce qu'il avait donné la synagogue pour rien. Il a, il a voulu sauver son serviteur pour rien. Il est allé s'humilier en se traînant par terre devant ses propres ennemis, en les suppliant, les Juifs, de faire quelque chose pour rien. Et tout cela, je pense que c'est ça, la grande foi du centenier. Et alors que si on regarde, quelle est sa foi ? Tiens, justement, Jésus dit « ta foi est grande ». Est-ce que la foi du centenier, c'était de bien croire dans la Trinité, de croire que Jésus soit Dieu ou Fils de Dieu, de croire qu'il y avait, je ne sais pas quoi, le symbole des apôtres et toutes les choses qu'on nous inculque dans notre catéchisme ? Certainement pas. Je crois même qu'il n'en connaissait rien du tout, si vous voulez, hein. Est-ce que sa foi, c'était qu'il était capable de s'agenouiller en prière et de faire des prières en se sentant consumé d'Esprit Saint, etc. On n'en sait rien. En tout cas, le texte ne le dit pas. Est-ce que ce centenier était un grand mystique ? On n'en sait rien. Est-ce qu'il priait même ? On n'en sait rien. Est-ce qu'il allait au culte ? Sûrement pas. Est-ce qu'il lisait la Bible ? Je ne pense pas. Et donc, ce centenier est vraiment une chose la plus décapante qui soit de nos textes ecclésiastiques. Voilà l'exemple de la foi, messieurs, dames. Un homme qui, a priori, ne priait pas, ne lisait pas la Bible, n'allait pas au culte, ne croyait pas dans la Trinité, dans d'autres choses. Et pourtant, c'est ça. Jésus dit, j'ai vu là la foi la plus grande que j'ai vue où que ce soit en Israël. Alors cette foi, c'était certainement, effectivement, je vous l'ai dit, la foi dans la grâce, cette espèce d'attitude faite à la fois de grâce donnée et de comprendre aussi que la vie ne peut surgir que quand on reçoit une grâce. Parce que c'est ça pour moi la clé. J'ai tourné longtemps ça dans mon esprit aussi. Quand il dit, vous savez, moi je dis à mon serviteur, fais ceci, il le fait, va là, il va. C'est pas pour dire que Jésus est capable d'un super pouvoir et qu'il peut dire à la maladie, va-t'en et elle s'en va. Mais c'est que le centenier, reconnaît que malgré tout le pouvoir qu'il a, eh bien il n'a pas le pouvoir de donner la vie. Et qu'il peut dire à un serviteur, fais ceci et il le fait, fais cela et il le fait, mais ça ne donne pas la vie. Parce que le pouvoir, quel qu'il soit, ne donne pas la vie. La vie, c'est justement d'un tout autre ordre. La vie, c'est de se reconnaître soi-même peut-être impuissant, et cette espèce d'humilité qu'il a, d'aller dire à un petit rabbi qui n'est rien, qui n'est reconnu par personne, et de lui dire, tu sais, moi j'ai un pouvoir immense, mais donner la vie, je ne peux pas. Et que je sais que la vie ne peut être que reçue, dans l'humilité. Et donc ce centenier dit, je n'étais même pas digne de venir, donc je ne suis même pas venu. C'est extraordinaire. Cette espèce d'humilité merveilleuse du centenier qui sait que la vie ne peut être reçue et que c'est dans une grâce, dans les deux sens, c'est-à-dire être capable d'aimer et d'être aimé, d'être capable de faire grâce et d'être capable de donner la grâce. Et que c'est ça, finalement, l'essentiel. Alors voyons, je crois que c'est ça, ce championnat de foi, c'est ce centenier qui a trouvé l'essentiel de la vie, le cœur même de la vie. Et quand nous croyons dans un Dieu de grâce, c'est certainement de croire dans un Dieu qui nous fait grâce, mais de croire aussi que c'est ça le secret et la clé de la vie. Et si moi je crois que Jésus-Christ est le sauveur du monde et le sauveur de notre vie, c'est parce qu'il a témoigné, initié de ce que la grâce est la chose essentielle. Parce que seule la grâce peut nous sauver, seule la grâce peut nous donner la vie. La grâce est la seule chose vraiment créatrice dans ce monde. Mais cette grâce, elle est dans les deux sens, je dirais. Ce n'est pas une grâce qui ne se reçoit ou se donne. C'est une logique d'existence, une logique à double sens qui doit exister dans nos relations entre nous et dans notre relation avec Dieu. Et c'est ainsi que, quand cette grâce est orientée par un projet, je dirais, un projet de se tourner vers l'autre, un projet de savoir ce que l'on veut et en quoi l'on croit pour avancer, cette grâce soutenue par une vérité, par une conviction, devient la puissance de vie et la puissance créatrice la plus extraordinaire du monde, parce que c'est là que s'accomplit, je crois, le projet créateur d'un Dieu dans lequel je crois et qui n'est qu'amour et grâce. Amen.